que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Les conflits en famille sont monnaie courante en République démocratique du Congo. Frères et sœurs, oncles, tantes s'entre-déchirent, parfois sur des questions liées à l'éducation des enfants, à la succession, à l'héritage. Et parfois, ceux qui n'ont pas de moyens sont jaloux. Jalouses un peu ceux qui gagnent normalement leur vie, qui sont bien avec leur famille, petite famille, ils ont de l'argent. Eh bien, ça crée un peu de la jalousie chez les autres. Et puis, des mésententes. Alors, comment bien gérer ces genres de situations dans nos familles élargies quand des choses comme ça arrivent? Comment se comporter et quelle attitude adopter? Vous avez des questions et des témoignages, composez le 081 890 63 94. Paul Mboula, éducateur à la vie, encore une fois bonjour.
Bonjour Jeudi, bonjour les auditeurs. Ah ouais. Et particulièrement les amis de Kalemi.
Voilà les Kalemi, où vous allez peut-être vous rendre très bientôt. Bon, on ne sait pas. Alors, Paul Mboula, dites-nous, en famille, pourquoi il y a souvent des conflits?
Oui,
surtout dans nos familles élargies, en Afrique surtout.
Je pensais qu'on allait parler de la famille restreinte, mais vous m'avez damé le pion en parlant de la famille élargie.
Oui.
Et aujourd'hui, la notion de la famille élargie n'est pas celle qu'elle était hier. C'est là d'abord le problème. Parce que hier, la famille n'était même pas restreinte, elle était naturellement élargie. Il n'y avait d'enfants pour personne et personne pour un seul enfant. Tous les villages avaient ses enfants et tous les papas, toutes les mamans du village étaient les parents de tous les enfants. Donc, tout le monde pouvait corriger tout le monde pouvait aider tout le monde et tout le monde travaillait pour tout le monde. Et la chose là, a évolué de sorte qu'aujourd'hui, la famille restreinte prend de plus en plus de place et la responsabilité de l'avenir, de la vie de l'enfant et de la petite communauté père, mère et fils semble être plus prédominant que la situation de la famille élargie. C'est ce qui traîne finalement les conflits. Et comme on a toujours dit, le conflit est naturel parce que c'est le conflit qui est à la base des normes, c'est le conflit qui est à la base de tout ce qu'il y a comme règles à mettre en place pour canaliser les divergences d'intérêts qui peuvent survenir dans la communauté. Donc cette divergence d'intérêts qu'on observe aujourd'hui dans la famille élargie a besoin aujourd'hui d'être repensée et d'être normée. On a essayé avec le code de la famille. Vous avez remarqué que s'il y a un point d'achoppement, c'est particulièrement la question de l'héritage. Et ça, c'est une chose. Mais avant que celui qui produit plus ne meure, déjà, il y a des penchants pour un côté ou pour l'autre. Ce qui fait que ceux qui semblent être lésés sont revendiquent, réagissent et se disent « nous aurions aussi bénéficier de ceci ou de cela » et cela entraîne finalement des conflits.
Mais il semble que par exemple dans nos familles, ici, par exemple une famille de 6 enfants ou 7, vous verrez peut-être que 2 ou 3 seulement ont réussi dans la vie. Ils ont une certaine stabilité, ils ont des moyens et ils entretiennent très bien leur famille. Alors les autres frères et sœurs sont un peu jaloux et ils viennent chaque fois demander qu'on les aide et après si vous refusez, ça crée des problèmes.
Oui, mais au départ, pourquoi 3 ont réussi et 3 autres n'ont pas réussi? Le problème se pose à ces niveaux-là, de l'éducation des enfants. Comment on a élevé les enfants? Comment on a géré leur caractère? Parce qu'il y en a qui ont été difficiles et parfois les parents n'ont pas pu les aider. Dans la société traditionnelle, cette question était facilement résolue.
Oui.
Les faibles étaient soutenus par les plus forts. Ben, c'est peut-être une valeur que nous sommes en train de perdre dans notre communauté.
Mais certains développent une telle dépendance que chaque fois, ils vont voir tel parce qu'il a un peu de moyens pour solliciter de l'aide.
Oui, même dans la société traditionnelle, cette affaire existait. Mais il y avait des mythes. Il y avait, finalement, on a mis en place un système pour décourager des gens qui voulaient simplement baisser les bras et attendre qu'on puisse les aider.
Oui.
C'est comme ça que vous retrouvez des proverbes qui disent « Non, l'oiseau, lui, mourra la bouche ouverte » ou tout ce qu'on a raconté autour de l'oisivité, de la paresse,
oui.
Décourager. Tout le monde, de sorte que même les personnes vivant avec handicap dans la société traditionnelle ne mouraient pas très pauvres et n'étaient pas toujours très dépendants. C'est là où nous devons dire que les systèmes modernes doivent aussi travailler pour que personne ne cherche à trop dépendre des autres.
Oui.
Ouais, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est à regarder c'est ceux qui n'ont pas réussi ou ceux qui ont réussi. Ont-ils été aidés à... Surtout ceux qui ont réussi, ont-ils été aidés à avoir un regard de compassion
envers les autres?
Oui, vous savez que y a une façon de bénéficier de réaliser la distribution de ce qu'on peut avoir comme revenu. Et j'ai vécu une expérience ce dimanche quelque part en passant. On donne trois paquets de biscuits à des enfants qui devaient normalement faire concourir pour être premiers et être primés. Mais en face d'eux, il y avait un public. Et on dit que le meilleur termine rapidement son paquet de biscuits. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont avalé tellement rapidement que... mais...
Ils ont eu des problèmes après.
Ils ont eu des problèmes, mais il y avait un autre qui avait du tact. Vous savez ce qu'il a fait?
Qu'est-ce qu'il a fait?
Lui, là, il a pris seulement un biscuit et le reste, il a distribué rapidement aux gens qui étaient autour de lui. Et son paquet était terminé le premier pendant que les deux autres
avalaient.
Qui était intelligent?
Mais c'est celui-là.
Vous comprenez?
Qui a distribué les
biscuits.
Celui
qui sait distribuer et qui sait prendre un peu pour lui-même et distribuer aussi aux autres est plus juste et plus à l'aise et d'ailleurs reconnu dans la communauté. En même temps, il sait aussi jouir, lui, du peu qu'il s'est donné.
Et mais là, vous pouvez distribuer une fois, deux, trois fois et après, ça devient lassant parce que vous avez votre petite famille, il faut s'occuper de votre épouse, vos enfants.
Oui, je dis, dans une conjoncture difficile comme la nôtre, on doit se dire qu'on n'a pas toujours les moyens suffisants pour distribuer. Mais avec un peu de rationalité, il faut se dire, j'ai eu la chance d'émerger, je peux aider aussi les autres à monter un tout petit peu leur niveau, parce que si aujourd'hui il n'y a qu'une personne sur 12 dans une famille qui a réussi, celui-là est malheureux. Même s'il distribue, on dira toujours qu'il a plus et qu'il pouvait donner plus. On vient chez toi, je dis tu as 1000 francs et tu donnes 200. On dit, et puis après on voit que tu dépenses 500 pour ta famille. Ah, mais il devait avoir plus, certainement qu'il avait 2000. Parce que du coup, il a dépensé 500 pour ses enfants. Mais tu sais combien il m'a donné? 200. C'est comme si c'était un devoir.
Oui.
Donc, admettons que le problème de la distribution de nos avoirs, c'est que nous pouvons réaliser.
Mais il semble que certains disent que la meilleure façon de les aider, par exemple, c'est de les envoyer faire des formations ou d'apprendre un métier, quelque chose comme ça, ils deviennent autonomes.
Oui, mais alors vous les envoyez à quelle formation? Est-ce que c'est eux qui choisissent? Là sera aussi orienté notre réflexion.
D'accord.
Je peux dire aujourd'hui, bon, jeudi, viens chez moi, je fais de toi un mécanicien. Tu dis, mais papa Paul n'a pas compris. Moi, je suis journaliste formé qui me trouve une place dans une radio.
Oui.
Alors que moi, là, je n'ai pas de compétences pour te trouver une place dans une radio. Mais parce que tu tiens à ce que tu exerces ton métier, dans l'entretemps, tu veux demander et bénéficier de ce que moi, je produis dans ce que j'ai fait, soit dans mon champ, ainsi de suite.
Bien, nous avons en ligne Jean-Luc de Lubumbashi et Prosper Apelli de Kindu. Et Paul Moula, on a appris que même dans, surtout dans les familles où le père était polygame, c'est là où il y a beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes. On va y revenir dans quelques instants. Bien. Jean-Luc, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Daniel, bonjour, c'est l'invité.
Bonjour.
Alors, comment bien gérer les conflits en famille? Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, j'ai aussi une question. Je voulais aborder dans un autre aspect. C'est concernant la famille où il y a des enfants qui sont nés hors du mariage et d'autres qui sont nés dans le mariage. Dans une telle famille, et surtout lorsque les enfants de deux côtés habitent sous le même toit, vous verrez que les enfants qui sont nés hors du mariage n'auront pas tendance à respecter leur mère. Et la mère, la femme de leur père, aura aussi tendance à privilégier ses propres enfants. Alors, dans ces cas, que peut faire le père de la famille pour résoudre un tel conflit? Merci beaucoup.
Merci Jean-Luc. Prosper, vous êtes à Kindou, bonjour.
Bonjour, bonjour Jody.
On vous écoute.
J'aimerais un peu demander à l'invité,
oui,
parce que nous avons constaté dernièrement ici que les églises aussi, surtout les églises de réveil, sont devenues des sources de conflits dans les familles. Parce que chaque fois, les prophéties qui se font là-bas, il n'y a que Tante Nende Azarine Deko, Ndoki, Père Azarine Ndoki. Et vous ne voyez pas que cela peut arriver à diviser la famille, à créer les conflits là-dedans. Et en plus de cela, nous sommes en train de vivre une misère qui ne sait jamais, qui n'a pas de nom au Congo. La pauvreté aussi ne peut-il pas être la source des conflits dans les familles, et surtout pour les gens qui sont doublement pauvres, parce qu'on peut être pauvre charnellement et spirituellement quand on connaît que Dieu nous a créés différemment et chacun a sa chance d'émerger ou de ne pas émerger. Ça dépend aussi de la conduite et de la moralité de quelqu'un et de la vision de quelqu'un. C'est ce que j'aimerais un peu demander à l'invité s'il peut être d'accord avec moi.
Merci Prosper Abeli de Kindou. Paul Moulin.
Merci Jean-Luc, merci Prosper. Au sujet des enfants nés dans le mariage et hors mariage, dans tous les cas, nous allons résumer la notion de conflit dans la divergence observée, dans les buts, dans les stratégies, dans les plans ou éventuellement dans les intérêts de l'un ou de l'autre. Et ici, il s'agit pour Jean-Louis... du manque de respect dans la famille et de la négligence ou de la maltraitance observée chez les enfants nés hors mariage. Que doit faire le père? Qui est le père à ce moment-là? Le père est un médiateur, parce que ce n'est pas lui qui est directement engagé dans le conflit, c'est la mère et les enfants qui s'opposent. Alors lui, en tant que médiateur, il doit prendre du recul pour dépassionner les débats autour de la question et voir, aider les antagonistes à communiquer, à chercher eux-mêmes la solution et à choisir la meilleure solution qui pourrait facilement instaurer un climat de paix dans la famille. Et je veux dire ça simplement. Papa a remarqué que à un moment donné, les enfants sont devenus insolents vis-à-vis de leur marâtre. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est demander à ses enfants, écouter ses enfants et éventuellement chercher aussi un autre moment pour réfléchir avec son épouse et voir dans quelle mesure elle peut rejoindre le point de vue des enfants. Parce que dans tous les cas, hein, ce que disent les enfants a toujours une part de vérité, même si ce n'est pas la vérité en toute totalité, mais il y a suivant un certain angle de vue,
oui,
les enfants peuvent se sentir vraiment lésés ou brimés. Ou madame peut mal interpréter un geste de l'enfant et déclencher comme ça un mécanisme de conflit qui dure longtemps. Alors papa doit être un bon médiateur et un peu qui doit être juste et éviter de pencher vers sa femme ou vers ses enfants. Au sujet de Prosper, je suis de votre avis que les enseignements ou les points de vue de certaines églises peuvent, de toutes les églises généralement, peuvent amener à ce qu'il y ait conflit. Déjà, quand les gens ne prient pas ensemble, n'ont pas la même croyance et qu'ils se lancent dans, les, dans la discussion de, d'ordre théologique, d'ordre de la croyance...
Ça peut diviser les familles.
Ça divise souvent les familles. Alors, il faudra que celui qui gère une telle famille soit aussi, comme je disais tout à l'heure à Jean-Luc, que... qu'il soit capable de se dire chacun a fait son choix, chacun va dans sa direction, mais cela ne doit pas nous diviser. Si nous cherchons tous, nous voulons atteindre le même idéal, c'est-à-dire vivre avec nos convictions, mais une vie de famille harmonieuse et une vie de famille paisible, il faudrait à ce moment-là, pousser les gens à échanger, à oui. communiquer et à faire la paix en disant, en tout cas, parlons plus de ce qui nous unit que de ce qui nous divise. Et à ce moment-là, ça réussit toujours.
Ça réussit. Il dit aussi que la pauvreté, la misère qui ne dit pas son nom, c'est aussi l'une des raisons des conflits dans les familles.
Oui.
Surtout par rapport à l'aspect qu'on a évoqué avant.
Parce qu'on veut vivre mieux. On veut vivre mieux, même si c'est la misère, mais il y a des grands conflits dans les familles les élargies où il y a des gens qui ont un peu plus et qui peuvent partager avec plus de gens dans la famille. Et la misère mal assumée, effectivement, prospère, doit amener certainement à des divergences de vues et à des discussions parfois par rapport à ce que au peu qu'on peut trouver ou à la situation qu'on traverse. Allez-y, vous avez parlé des églises. Si vous allez quelque part et on vous dit que votre misère vient de votre tante ou de votre oncle qui est sorcière, et après 20 ans d'études, vous n'avez jamais trouvé un travail rémunérateur, vous comprenez que ça choque et ça se justifie. Mais il suffit que vous ayez votre job et si ça vous paye, vous allez vous passer facilement de votre tante qui vous a ensorcelé en disant, voilà, je lui fais un défi, hein, je peux avancer et faire mieux. Donc, dans tous les cas, travaillons pour que la paix vienne et la culture de la paix commence dès le bas âge, pendant que nous formons l'enfant. Il faudrait lui donner des valeurs qui lui permettent de vivre en harmonie, même pendant les moments de disette. Parce que la souffrance, elle aussi, enseigne. Et il ne faut pas toujours faire croire aux enfants que la vie est toujours rose et qu'il y a, que dans la vie, on ne manquera de rien, même si on a assez de moyens aujourd'hui.
Oui. Rodrigue nous appelle de Bukavu et Joseph de Kinshasa. Rodrigue, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Quelle est votre question, Rodrigue?
Ma préoccupation, c'est par rapport à un témoignage. Il y a un garçon d'ici chez nous qui s'est marié. Et après avoir fait le mariage, comme il travaillait en tant que célibataire, il aidait sa famille pour les petits besoins de la maison. Après le mariage, il a vraiment baissé cette contribution qu'il donnait chez lui. Sa maman commence à toquer sa belle-fille, disant que non. C'est elle qui interdit à son fils de ne plus continuer à l'aider. Ça naît un conflit entre la maman et sa belle-fille, jusqu'au niveau où il commence à s'appeler, à se jeter des termes sorcière. Et le garçon, vraiment, il est perturbé, il ne sait pas s'il faut donner raison à sa femme ou à sa maman, ou à qui l'attention monte. Ça devient un conflit et personne ne sait comment les aider. Alors, dans cette situation, comment peut-on apporter une solution et créer encore l'harmonie entre ces personnes?
Merci, Rodrigue. Joseph Désiré, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, j'ai dit.
Quelle est votre question?
Voilà, je n'ai pas de question, mais j'ai trois petites préoccupations. La première, je voulais parler par rapport à mes précédents.
Oui.
Ils ont parlé de la pauvreté. C'est-à-dire que la pauvreté est vraiment à la base de plusieurs désordres, plusieurs incompréhensions, même des conflits. C'est-à-dire que pour une personne qui a réussi, et toute la famille n'attend de lui que les aides en parallèle, en horizontal, en vertical. Voilà, c'est-à-dire que celui-là qui est au centre est objet de plusieurs conflits à tel point que
oui.
Il peut même précipiter la mort d'une personne. La deuxième préoccupation qu'il y a aussi à soulever, c'est-à-dire que la mauvaise foi de la famille, si c'est un homme qui a quand même un peu de moyens, c'est-à-dire qu'il y a la famille qui se mêle et qui tient à ce que l'autre puisse vraiment devenir l'éponge ou je ne sais pas quoi, et pour qu'il puisse continuer à servir, et c'est-à-dire qu'il devient quelque part... la servitude se manifeste, on devient un peu esclave, et ça crée pas mal de conflits. Il y a aussi la préoccupation, ce qui concerne les héritiers,
oui.
Que nous appelons les soi-disant héritiers, qui sont déjà qui s'improvisent déjà héritiers avant même la mort de papa.
Oui.
Et il y en a même, je vous informe en passant, qu'on a constaté qu'il y a un enfant qui a joué même que son qui a précipité la mort de son papa, c'est-à-dire que qui a joué un jeu pour que son père puisse mourir vite afin d'hériter ce que le papa a laissé.
Oui.
Voilà mes trois contributions pour ce qui entraîne pas mal de conflits dans le cas d'héritage.
Merci Joseph. Benjamin, vous êtes à Colésy, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup, je suis très intéressé par ce débat. Mais oui. Je voudrais partager mon expérience à moi. Je suis l'aîné d'une très grande famille.
Oui.
Maintenant, là, je ne gagne même pas gros. Mais la première préoccupation, c'est la formation de mon premier cercle restreint, ma famille restreinte.
Oui.
Et au-delà de ce foyer, ce cercle restreint, je suis en train de me battre et payer la scolarité de mes nièces et de mes neveux. En me disant, si chez mon frère, il y a une fille qui termine sa licence, ça signifie que mon frère est déjà au moins un peu encadré par rapport à sa fille. Chez ma sœur, j'ai par exemple aidé un monsieur que j'ai formé. Il est spécialiste en moteur diesel, moteur à essence. Il est chauffeur mécanicien.
Oui.
Et puis chez l'autre jeune frère, je suis en train de prendre en charge la scolarité des jeunes enfants. Mais je pense que c'est de cette façon-là. Il faut d'abord insister beaucoup sur l'éducation, l'instruction des enfants. Et puis, quand vous avez en pensée, quand vous avez dans la conscience cette pensée de pouvoir déjà prévenir les conflits après le décès, je recommande que vous-même, de votre vivant, que vous puissiez organiser des séances d'éducation et de rééducation de toute la grande famille. Vous devez saisir donc toutes les occasions, et d'ailleurs, même quand vous les invitez, pour leur parler de l'après-mort de chacun de vous. Ça, c'est des choses, c'est une culture que nous n'avons pas, bien qu'aujourd'hui, on nous demande d'écrire le testament. Mais je crois que ce n'est pas suffisant. Il faudrait déjà engager un dialogue, il faudrait déjà se mettre à éduquer les siens,
oui.
Les frères qu'on a, les grands garçons qu'on a, les grands filles qu'on a, parlé de sa mort comme si on était déjà mort. Donc, moi, quand j'ai l'occasion de réunir les miens, de leur dire, voici comment je pense, voici ce que je prévois. Pour les grands garçons qui ont terminé, par exemple, l'aîné est à l'IFATICO, termine sa licence, les autres sont en train de monter, je dis aux grands garçons que vous n'aurez pas à pouvoir déranger les tout petits qui sont encore à l'école primaire, qui sont aux humanités, par rapport aux maisons que je peux laisser. Donc, mes maisons appartiennent aux tout petits et le loyer qui en sort doit donc permettre aux autres aussi de pouvoir remonter la pente. Donc, un grand garçon a dit, j'ai donné l'instruction suffisante jusqu'au niveau universitaire. Pour le moment, je lui dis très clairement qu'il n'est pas concerné par les petites maisons que j'ai et qui génèrent le loyer. Et à mes jeunes frères, je rappelle toujours à chacun d'eux ce que je fais chaque fois que j'ai payé la scolarité. Même au niveau de l'université, pour un neveu, pour une nièce, je rappelle à mon frère que cela, c'est déjà son compte, donc de l'après la mort de Benjamin. Je pense que nous devons nous rééduquer. Nous devons parler de ces choses très clairement, sans froid aux yeux. Et c'est de cette éducation-là, de cette rééducation-là,
qu'on peut prévenir les conflits.
L'esprit, donc, que la sécurité même est déjà...
assuré.
Il faut construire ça de son vivant.
Merci Benjamin de Colésy. Paul Mboula, vous avez suivi ces trois auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Faut-il donner raison à sa mère ou à sa femme, a dit Rodrigue à Bukavu, que nous saluons aussi. Et nous voulons dire la règle pour une conjointe qui voudrait bien évoluer dans son ménage et en harmonie et en paix avec son époux, c'est de ne pas haïr sa belle-mère. Mais il y a un problème. Je l'ai dit dès le départ, nous sommes dans une conjoncture qui est particulière et qui remet toute la culture de chez nous en question. On s'est dit, pourquoi on élève les enfants? Est-ce pour eux ou bien pour nous? Pour les parents qui en ont encore, des plus jeunes, qu'ils sachent que l'éducation est d'abord pour les enfants. Je rejoindrai en même temps Benjamin. Benjamin dit qu'il fait tout pour éduquer. Bravo, c'est
la communication. Il est l'aîné d'une grande famille.
D'une grande famille. Félicitations et c'est bien de commencer cette amorce de dialogue. Mais le problème n'est pas dans vous, pauvres gars qui travaillez, qui vous donnez corps et âme pour donner le peu que vous pouvez gagner à tout le monde. La justice, vous l'incarnez. Mais maintenant, les autres sont dans quelle posture? Quels sentiments, hein, quelles émotions ils ont quand ils apprennent que ce que nous sommes, ce que papa est en train de faire ici, c'est pour les plus petits et pas pour nous. Moi, j'ai vu 20 ans après la mort d'un papa qui a réussi à envoyer son grand garçon de l'autre côté du Nord, revenir celui-là et pour venir revendre la parcelle familiale en disant « moi aussi, j'ai des droits ». C'est un conflit qui est en cours dans une de nos communes ici. Pour dire que l'éducation va porter effectivement sur cette sensibilisation, mais en même temps sur les dispositions qu'on prend pour que définitivement celui-là ne revienne pas en charge. Mais vous ne saurez pas satisfaire tout le monde.
Impossible.
Donc maintenant, il faut vivre avec le conflit. Et ce qu'il est en train de mettre en place, ce sont des petites normes pour sa petite famille, pour sa famille élargie, et qui permettra à ce que tout le monde dise non. De son vivant, voici ce qu'il voulait de ses biens, et voilà comment nous devons nous comporter. Donc, ces normes-là dérivent de ce conflit, mais le conflit est là, il est encore latent. Pendant que vous êtes là, il est latent. Et le jour où vous ne serez pas là, vous ne saurez pas vous défendre et défendre vos biens, alors ils feront recours à la loi, ils feront recours aux structures sociales. J'ai vu un enfant surgir avec les tantes et dire « moi je suis né hors mariage, je suis seul, de l'autre côté ils sont six, si nous gardons la famille parentale, ils vont bénéficier plus que moi ». Moi je pense que c'est le moment de régler la question avec les tantes et les oncles qui appuyaient. Et après avoir vendu la parcelle, le petit se retrouvait malheureux aujourd'hui parce que il n'avait pas la maturité voulue. Maturité, et je pense aussi que ce que les ancêtres ont fait pour soutenir leur besoin d'unité, ils ont aider les jeunes à réaliser qu'ils sont faits pour vivre ensemble. On ne réussit jamais seul. On ne réussit jamais seul, je dis. Et en se lançant dans l'individualisation, en disant « j'ai déjà donné ta part hein, ». Les bibliques savent ce qui s'est passé. Hein? Les bibliques savent ce qui s'est passé avec l'aîné qui avait demandé sa part. Il est parti, il a tout dilapidé, il est revenu.
Mais il est revenu après.
Il est revenu après.
Mais Paul, vous la prenons un cas, par exemple, vous avez des moyens, alors vous faites quelques boutiques dans le coin, vous appelez vos petits frères pour venir les gérer, mais ils utilisent mal l'argent et ils ont tout dilapidé. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce genre de personnes?
Et vous les chassez, ils restent vos frères. Donc c'est évident que ça reste un problème. Je dis, ça reste votre problème. Vous devez arriver en même temps que vous avez donné les moyens. Est-ce que vous vous êtes assuré qu'ils vont bien gérer? Parce qu'au fond, à un moment donné, on s'est dit, c'est parce que ce sont mes frères, je donne. Mais est-ce qu'ils ont des compétences
pour gérer les boutiques?
Pour gérer les boutiques. Donc, en même temps que vous voulez faire du bien, oui. mais misez également sur la notion de compétence. Et par exemple, quand on parle de la misère avec Jean Désiré, hein, la misère est entretenue par des gens qui ne comprennent pas la conjoncture est difficile et que notre société est en mutation et que nous n'avons pas suffisamment de moyens et tous des atouts pour obtenir un emploi qui paye. Et quand il y a quelque chose qui nous appartient, parce que le nous africain demeurera, ça fait partie du sang africain et parfois particulièrement du Congo. Donc il y a toujours un nous, ça c'est un bien commun. Et si c'est un bien commun, laissé par tel oncle, par telle tante, par tel frère, par tel petit frère ou grande sœur, ça sera toujours quelque chose qui appartiendra à la famille. Moi, j'ai vu des gens tout malheureux avec un testament qui ont obtenu gain de cause au tribunal. Mais après les décès de deux ou trois, et ce sont les enfants eux-mêmes qui reviennent en surface en disant « Regardez, les loyers, les papiers sont là, recommençons le règlement du conflit de partage de l'héritage. »
Surtout cette question d'héritage, ça crée beaucoup de conflits entre frères et sœurs.
Ça crée beaucoup
de jalousies, conflits. Les gens s'entretuent et c'est terrible.
Merci à Jean Désiré qui a dit qu'il y a des gens qui travaillent déjà comme héritiers avant le décès de celui-là qui est en train de générer ses biens. Donc, oui. un travail qu'on doit faire avec tact, pour que pendant qu'on est en train d'élever les enfants, je le disais pour les ancêtres, ils donnaient certaines valeurs, ils enseignaient certaines valeurs et aidaient les jeunes à intérioriser ces valeurs-là pour la gestion du bien commun. Et je pense que ce soit au niveau des nations, que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau des entreprises, oui. la notion du bien commun doit être suffisamment être enseigné de sorte que chacun se dise ça c'est pas le fruit de mes efforts, ce sont les fruits des efforts d'une autre personne, moi aussi je peux produire ou contribuer ou améliorer et en même temps jouissons ensemble de ce que les autres nous ont donné. Et ça, si ça peut être intériorisé, ça serait sauvé le nous africain qu'on retrouve dans le grand frère qui a réussi, dans la grande sœur qui a réussi et qui a une famille restreinte maintenant qui prend de l'ampleur, qui prend de la place, mais en même temps qu'on n'a pas toujours les mêmes chances, on n'est pas pendant l'éducation, peut-être qu'on on est par exemple né hors mariage et que l'on se retrouve un jour précipité dans cette famille-là où papa a eu assez de temps pour s'occuper de ceux qui sont nés dans le mariage. Vous comprenez que
il y aura toujours des conflits.
Les accidents de la vie feront toujours qu'il y ait des conflits.
Mais certains disent que dans une famille polygame, surtout pour le papa qui a beaucoup de femmes et avec beaucoup d'enfants, et chaque maman intoxique ses enfants et puis les enfants sont à couteau tiré, même avant même le décès du papa, c'est des conflits terribles.
J'ai aimé votre intervention quand vous avez introduit ce sujet. Vous avez dit qu'il y a des conflits entre les oncles et les tantes, entre les frères et les sœurs, hein, dans la famille élargie, entre les neveux et les oncles. Ce qui veut dire que on peut aller de verticalement comme horizontalement.
Il y aura toujours des conflits.
Et les conflits, je l'ai dit, c'est pas toujours nécessairement mauvais, mais c'est votre capacité
de les gérer.
Ou de les prévenir, comme nous disait Benjamin, qui va faire que votre famille reste unie ou se désintègre du jour au lendemain.
On dit souvent les linges sales se lavent en famille.
Oui, c'est parfois une blague. Hein. C'est parfois une blague, c'est pas évident.
C'est pas évident.
C'est pas évident. Il y a des moments où on s'est dit pourquoi on est né, pourquoi on a travaillé. Il fallait croiser les bras comme les autres et voir les choses s'empirer ou encore se résoudre d'une autre façon. Non, on ne doit pas croiser les bras, il faut travailler, il faut produire, mais en même temps aider ceux qui n'ont pas la chance de travailler, qui n'ont pas peut-être les mêmes moyens que nous,
de, mais qui ont peut-être la volonté là,
la
d'émerger,
volonté d'émerger les aider dans la mesure du possible, mais vous ne pouvez pas tout donner.
C'est ça.
À certains moments, il faut savoir dire oui, parce qu'un oui n'a de sens que là où un non est possible. Donc si nous, de temps en temps, nous pouvons conscientiser ceux qui viennent demander, dans nos églises, on vit ça, dans nos familles, on vit ça.
Cette forme de mendicité.
Oui, une solidarité que les autres ont appelée solidarité sauvage, parce que même votre brosse à dents peut être louée un jour, ça vous pouvez comprendre. Donc,
oui.
Il doit y avoir une certaine limite, ce n'est pas parce que l'oncle a émergé, le grand frère a émergé ou la tante a émergé que l'on doit à tout prix le saigner à blanc. Non, donc il faudra qu'à un moment donné, on se dise... Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi en complément de ce que j'ai déjà et peut-être dans la mesure du possible accepter que lui aussi peut être limité.
Bien, on va terminer avec la question des trésors Marius de Massina. Il nous a écrit depuis la commune de Massina. Bonjour Radio Okapi. Que pensez-vous des conflits entre deux frères d'une même famille qui ont tous des moyens et comment peut-on gérer ces problèmes? Ils ont tous des moyens bien positionnés, mais ils ont des conflits entre eux.
Oui, il s'oppose sur quoi? Marius doit savoir que c'est pas. Est-ce que c'est lié encore aux avoirs? Parce que vous dites qu'ils ont tous des moyens et ils sont bien placés. C'est que le conflit est ailleurs. Le conflit peut être ici dans le cas de nous imaginons parce que c'est comme si on faisait un diagnostic à distance.
Okay.
Il faudra les interroger pour savoir qu'est-ce qui les oppose.
C'est quoi l'aîné du problème?
Est-ce que c'est leur façon de jouir de ces moyens-là par rapport à la grande famille? Parce que je dis et moi pouvons avoir des moyens, nous sommes frères. À un moment donné, moi je donne, toi tu ne donnes pas. Ça fait problème. Alors, pourquoi tu ne donnes pas?
En cas de matanga, deuil ou un besoin, enfin.
Et pourquoi je dis ne donne pas à sa femme? Sa femme est égoïste. Alors, je commence à m'opposer à la femme de Jeudi et Jeudi n'agrée pas ça. Ça fait problème.
Oui.
Donc, nous pouvons ne pas avoir les mêmes buts, les mêmes stratégies, la même vision et nous serons en divergence. C'est pourquoi il faudra qu'à un moment donné, on se dise... Oui, frère, tu sais, Dieu nous a bénis tous les deux.
Oui.
Hein? Marius va leur dire ça, que Dieu les a bénis tous les deux pour qu'ils puissent d'abord s'épanouir individuellement, mais en même temps qu'ils se complètent. C'est la règle de la gestion du bien commun, hein, de tout ce que nous pouvons avoir comme moyen aujourd'hui. Réaliser que ce que j'ai, c'est pour moi d'abord, et peut-être la petite famille restreinte, mais en même temps, voir aussi autour de moi, non seulement dans la famille, d'autres personnes qui souffrent, qui n'ont pas assez de moyens comme moi.
Paul Mboula, éducateur à la vie, merci.
Merci, au revoir.